Toujours sur la montagne, depuis 3 jours, on n'en descend pas, encore et toujours, avec toujours aussi Isaïe dans lequel nous avançons. Et là nous rencontrons donc la prophétie d'un festin. D'un festin qui a quelques petites particularités. C'est que la première particularité qu'on ne voit pas en général, c'est que c'est Dieu qui le prépare. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le prépare. Donc c'est un peu un repas assez mystérieux, puisque quand on prépare, nous on sait ce qu'on fait. Mais c'est un repas particulier. Alors il est écrit aussi que il y a un linceul, un voile de deuil qui sera enlevé aussi par le Seigneur. Vous remarquerez que dans cette lecture, c'est toujours Dieu qui est à l'action. Hein. C'est pas nous, c'est lui qui fait et qui nous dit voilà ce qui va se passer. Et l'annonce d'une destruction de la mort. Alors on peut aussi se demander, vous savez peut-être que une semaine après la mort de quelqu'un, on doit faire un repas chez les Juifs, un repas funèbre. Il se trouve que 8 jours après la Pentecôte, après la Pâque, c'est aussi les 8 jours où ils doivent se réunir pour commémorer. Et ils ne commémoreront pas un défunt puisque le ressuscité leur apparaîtra. Il me semble qu'il y a aussi une clé de lecture. Hein. Sur ce passage-là. Et c'est une des manières de faire très très fréquentes des pères de l'Église, hein, d'éclairer l'Écriture par l'Écriture. Bon, là on a aussi un éclairage dans l'Évangile. Mais voilà, je voulais juste faire remarquer ça. Donc un festin qui annonce un salut. Hein, et donc qui annonce notre espérance. Nous espérions, il nous a sauvés. Donc c'est important, le mot espérance revient plusieurs fois. C'est l'espérance de la foi. Nous croyons que ceci va s'accomplir. Pour les Juifs, est-ce que ça s'est accompli dans leur histoire ceux qui ne reconnaissent donc pas le Christ, puisque les premiers chrétiens étaient des Juifs, hein, il ne faudrait pas l'oublier. Est-ce que ça a eu un sens historique chez eux? Ou bien est-ce que c'est une prophétie qui pour eux n'est pas encore accomplie? Voilà. En tout cas pour nous, nous avons une belle image de son accomplissement dans l'Évangile. Alors dans l'Évangile, on est encore sur une montagne. En fait, on passe son temps sur la montagne en ce moment. Et Jésus guérit. Donc là, c'est plus. Vous remarquerez que là, c'est plus Jésus qui va vers les foules, c'est les foules qui viennent vers la montagne. Rejoins un peu la première lecture, la première lecture de lundi, où on disait les nations viendront. Voilà. Voilà, c'est pas encore les nations, ce sont des Juifs, a priori, qui viennent vers Jésus et donc Jésus guérit. Jésus guérit. Voilà, Jésus, ça veut dire salut en hébreu, Yeshua. Donc Jésus guérit, Jésus accomplit ce que son nom signifie. Et alors les gens sont admiratifs. Ce qui est étonnant, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous étonne pas, vous, mais ils sont admiratifs, comme s'il y avait un truc, quoi. Vous voyez, comme un enfant est admiratif devant un tour de magie. Ils n'en sont que là. Et nous risquons de rester là, nous aussi, si on ne comprend pas qu'il y a quelque chose à voir qui est autrement profond. Donc ils sont dans l'admiration. Voilà. Alors quand même, on voit deuxième étape. Ils rendent gloire à Dieu. Oui, c'est très très beau. Ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Donc, ils ne sont pas restés à cette première étape d'admiration. Là, il y a une action de nous. Il y a une action de nous qui n'est pas simplement. On voit ce que Dieu donne et on reconnaît toujours ce double mouvement. Et puis, il se passe quelque chose d'assez curieux. Se passe quelque chose de curieux, c'est que Jésus dit, j'ai pitié de cette foule. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun des apôtres ne lui dit, attends, t'as vu ce que tu viens de faire là? On sait que t'as pitié d'elle. Tu viens de les guérir. Ça veut dire quoi ce que tu dis? Et parfois, c'est intéressant de mettre en scène et de se dire, mais les autres, ils ont rien dit. On ne sait pas, hein. L'apôtre Matthieu nous rapporte, l'évangéliste Matthieu, plutôt, bon, l'apôtre aussi d'ailleurs, nous rapporte les choses comme il en a reçu l'inspiration, hein. Mais c'est assez curieux. Et alors, en fait, nous, on entend ému de compassion, pitié, qui est très bien, qui est très très vrai, hein. Et le mot originel veut dire tout ça, mais ça peut vouloir dire jusqu'à l'angoisse, quoi, la boule au ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la boule au ventre pour les autres. Peut-être des parents, quand ils ont un enfant qui passe un concours, et puis la compassion est tellement grande qu'ils en ont mal au ventre. Et souvent, les mamans sont malades par procuration, quoi. Oui, elles sont malades de la maladie de leur fils. Enfin, bon, bref. Bon, c'est pas super masculin en général, mais ce qui est peut-être dommage du reste. Mais voilà. Bah, Jésus, il a ça, quoi. Il a un souci de l'autre. La question, c'est pas d'avoir fait ses heures, quoi. C'est pas d'avoir guéri, voilà, allez, 10% de guérison, vachement bon, hein, le marketing, top. On n'est pas du tout sur ce registre-là. Jésus a souci des personnes. Et il a tellement souci que il va faire un truc incroyable. Et il va faire un festin. Sur une montagne, qui est évidemment un des accomplissements de la première lecture. Et nous découvrons que Jésus ne part pas de rien. Voyez. En soi, il aurait très bien pu partir de rien, hein. Quand il a créé l'homme, quand il a créé la terre, il est parti de rien. L'homme est parti d'un peu de terre. Mais la terre elle-même, il l'a créée un jour. Donc voilà, donc en soi, ça pourrait très bien se faire comme ça, vous voyez. Eh ben non, Jésus prend quelque chose de la création. Je ne sais pas si vous parvenez à mesurer l'humilité qu'il y a derrière. Dieu qui n'a besoin de rien choisit de prendre quelque chose qui était là avant lui. Bah, pas avant Dieu, mais Jésus prend quelque chose qui existait, quoi. Jésus n'a pas créé les sept poissons et les sept pains, là. Il a pris ce qu'on lui donnait. Cette humilité de Dieu qui s'insère dans la pâte humaine. Voilà. Et cette humilité est tellement grande qu'évidemment, ça préfigure l'Eucharistie, hein. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, c'est ce qui sera dit à la messe juste avant la communion. On peut dire festin, festin, une hostie, festin. Mais, enfin, quand même un Dieu qui nourrit ses brebis, hein, avec son corps, avec son cœur. Donc voilà, nous avons ici un accomplissement de cette prophétie de Jésus qui ne part pas. Par Jésus, qui ne part pas de rien, qui part de ce que nous pouvons nous-mêmes donner. Ce qui n'est pas grand-chose comparé aux quantités de personnes. Mais Jésus ne veut pas partir de rien. De même qu'il a guéri des gens à partir de maladies qu'ils avaient. Voilà. Bon, vous allez me dire, il ne va pas guérir des gens sains. Il pourrait les guérir intérieurement. Et ça, c'est un mouvement de la grâce qui se fera plus tard, qui se fait dans le temps, qui est de l'ordre de la reconnaissance, de la réflexion, du discernement. Voilà, donc aujourd'hui nous entrons à la fois dans la... Continuons dans cette passivité, c'est Dieu qui agit, mais avec une invitation à rendre gloire à Dieu, à exulter. Et il en reste, hein. Il reste des... Ils mangèrent leur faim et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Voyez. C'est l'idée du festin, quoi, la plénitude. Il en reste encore. Quand Dieu vient, ben, ça n'a pas de fin, quoi. C'est le cas de le dire. Dans tous les sens, toutes les écritures du terme, du reste. Voilà. Et alors, je ne sais pas comment, petite finale, je ne sais pas comment les gens qui sont sous les bombes vivent ces lectures. Les gens qui sont dans la guerre vivent ces lectures. C'est une expérience que j'ai pas faite. Peut-être parmi vous, il y en a qui la font. Parce que là, bon, ça va bien, on est bien au chaud à sa table, derrière son affaire, on a pris son café, que sais-je. Bon. Voilà. Et comment cette lecture résonne chez des personnes qui sont peut-être écrasées par une bombe demain matin? Je dis écrasé, c'est un euphémisme. Voilà. Comment est-ce qu'on vit de ça? Quelle résonance est-ce que a cette parole dans des situations absolument dramatiques et parfois très très inhumaines? C'est une vraie question. Et bien justement, ça peut être l'occasion pour nous de compassion, là aussi, celle dont Jésus parle, de compatir en... Bon, en offrant un petit quelque chose. Vous savez, le temps de l'Avent n'est pas un temps de pénitence, mais de préparation. Bon, dans le cadre monastique, normalement, on jeûne 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. Ce qui est beaucoup moins, évidemment, que le carême, où c'est quotidien. Mais voilà, offrir un petit quelque chose qui est par compassion pour ces gens qui subissent tout ça. Et demander au Seigneur de que sa parole soit toujours plus performante.